Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 412 du podcast de Touchdown Actu. Victor Roulier au micro pour m'accompagner Jean-Michel Boujard, bonjour à toi.
Salut Victor, bonjour tout le monde.
Et troisième semaine qu'on se retrouve ensemble, on est désormais titulaire, on tient cette place tous les deux.
Ouais.
J'espère que vous avez vu la mock de lundi où on a fait un premier tour pour vous présenter tous les meilleurs joueurs de cette draft. Si vous ne l'avez pas encore vu, elle est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir les choix faits par Jean-Michel, par moi-même, par Mehdi, par Alex et par l'ensemble de l'équipe Draft. Pour cet épisode d'aujourd'hui, on va parler gros bras, on va parler mains violentes, on va parler offensive tackle, qui est quand même un poste extrêmement important. On va parler de trois joueurs, on va y venir tout de suite. Ensuite, au niveau de la draft, les Giants et les 49ers et on finira évidemment par nos pépites, sans perdre de temps, allons sur les offensive tackles.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Ah ben là, si vous avez besoin de rumble, vous avez trois candidats. On va parler offensive tackle, on a choisi trois joueurs. Il pourrait éventuellement y en avoir plus, je dirai un mot un peu après, mais les trois joueurs aujourd'hui qui sont les plus regardés, c'est Penei Sewell de Oregon, 1m98, 149 kg. C'est Rashawn Slater de Northwestern, 1m93 pour 142 kg. Et c'est Christian Dariso de Virginia Tech, 1m96 pour 141 kg. On va s'intéresser à celui que les gens connaissent sûrement le plus, parce que c'est le nom qui revient depuis un an. C'est Penei Sewell. Jean-Michel, tu devais nous le décrire avec un adjectif.
Complet, voilà. Pourquoi on en parle autant? C'est parce qu'en fait, c'est le total package. Penei Sewell, il a absolument tout. Alors déjà, tu vois, tu as donné ses mensurations, 1m98, 150 kg. Vous pouvez checker, il y a très peu de tackles offensifs qui ont son gabarit. Il est vraiment très, très costaud. En plus, c'est pas juste une histoire de gabarit. Il s'en sert très, très bien. Ça part de l'usage des mains, ça part de l'engagement du bas du corps, ça part du moteur. C'est un joueur très physique. En plus de ça, il a pour lui la fluidité, c'est-à-dire qu'il est capable de faire le miroir du defensive end, de le suivre en déplacement latéral. Il a vraiment le total package, c'est-à-dire également qu'il peut à la fois protéger son quarterback et également être un facteur pour le jeu de course, c'est-à-dire ouvrir une brèche sur la ligne d'engagement ou alors en décrochement où tu le vois aller complètement aplatir un safety ou linebacker. Penei Sewell, ben, il a tout, tout simplement.
Sa mobilité latérale pour un mec de 150 kg, c'est juste improbable. C'est pas possible d'être aussi explosif, d'être aussi rapide en étant aussi lourd. Tu l'as dit, hein, c'est vraiment un prospect que tout le monde attend. Moi, je vais juste nuancer avec les deux, trois critiques qu'on peut entendre de temps en temps. L'expérience, bah, il a opt-out cette année. Donc forcément, certains vont dire qu'il n'a pas suffisamment d'années au très, très haut niveau. On le verra, il n'y en a qu'un seul des trois qui a joué cette année, c'est Christian Dariso. Et il a bien fait d'ailleurs. Et l'autre petite nuance, c'est que certains disent que techniquement, il est parfois encore un peu brut, notamment sur le placement des mains. Bon, c'est le genre de choses, honnêtement, tu l'apprends sur le terrain, tu l'apprends avec tes coachs. C'est quand même pas quelque chose qui va le faire descendre sa cote incroyablement à draft.
Et puis, c'est pas flagrant, quoi. Hein.
Non, c'est vraiment du pinaillage. Le deuxième profil, il est peut-être un petit peu plus singulier que les deux autres. C'est Rashawn Slater, donc 1m93, 142 kg. Si tu devais le décrire avec un adjectif.
Physique. C'est un joueur très physique. Voilà, on en parlait là avec Penei Sewell. C'est lui aussi, c'est un joueur très physique avec son engagement des mains, avec son engagement du corps. C'est quelqu'un qui, sur la ligne d'engagement, c'est un féroce, c'est un teigneux. Il va attraper le défenseur, il va plus le lâcher. Alors, Rashawn Slater, pourquoi il a une telle cote alors qu'il n'a pas joué en 2020? En fait, c'est parce qu'en 2019, il a fait une très bonne saison, mais surtout un match, le match contre Ohio State et donc contre Chase Young. Alors, vous pouvez retrouver ce match, vous pouvez même retrouver des highlights, juste du duel entre Slater et Chase Young. Et effectivement, vous verrez, Rashawn Slater, c'est un bulldog. Il a attrapé Chase Young et puis il l'a mis au sol comme personne ne l'avait jamais fait.
Et comme personne ne l'a fait ensuite, d'ailleurs.
Exactement.
C'est vraiment le match cauchemar de Chase Young où il ne l'a pas lâché. C'est un joueur particulier parce que beaucoup le projetaient en guard parce qu'il a, il a ce physique un peu moins fait exactement pour les tackles. Il a un peu le même problème, et c'est une des comparaisons, mais on en donnera une autre, mais qu'avait Jonah Williams quand il est arrivé au Bengals, c'est est-ce que ce joueur est fait pour être guard ou pour être tackle? Moi, je pense que quand tu as des mains aussi violentes, un physique aussi bien bâti, tu peux tout à fait jouer tackle. Je dirais juste que je le verrais pas dans des systèmes type attaque verticale, Buccaneers, alors il l'était moins en fin de saison, mais dans ces jeux qui doivent être prolongés, c'est pas un joueur qui va rester 4-5 secondes avec son défenseur sur les bras. C'est plutôt un joueur dont il faut utiliser l'explosivité et mains violentes. C'est un joueur qui peut créer la différence tout de suite, donc il y a besoin d'une attaque dynamique pour ce genre de joueur. Mais c'est vrai que c'est un profil atypique, mais qui va plaire, je pense, à beaucoup. Et dernier, Christian Dariso, j'ai cru comprendre de la moque et de nos discussions que c'est un peu ton chouchou.
Exactement.
Si on ne trahit pas de secret. Décris-nous Christian Dariso avec un adjectif.
Je vais prendre une expression, je vais te dire « dancing bear ». Les Américains disent souvent ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'ours dansant.
Voilà, il est bâti comme un ours, c'est-à-dire c'est un Golgoth. Mais en même temps, dancing, c'est-à-dire qu'il a les pieds très légers. Pourquoi j'aime beaucoup Christian Dariso? C'est parce que justement, c'est pour moi le prototype du left tackle. Le gars qui est vraiment très grand, très costaud, qui a une grande envergure et qui en même temps a une mobilité incroyable. Il peut vraiment suivre, lui aussi, faire le miroir avec son defensive end. Il le suit de partout. Il peut se déplacer de façon latérale. Il peut se déplacer en arrière. Il peut se déplacer en avant. C'est vraiment, pour moi, c'est, s'il n'y aurait pas Penny Sewell, ce serait vraiment le numéro un.
Ouais, tu spoiles ta hiérarchie, on y reviendra parce que moi je vais te faire sauter au plafond comme pendant un mock, mais c'est vrai que voilà, là encore on a du physique, on a des mains violentes, on a de la mobilité, hein, c'est vraiment une belle classe. C'est une très belle classe offensive tackle, et même si vous regardez le top 10 des offensive tackle, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment vraiment une classe extraordinaire. La petite question, c'est de savoir si c'est un one year wonder, parce qu'on disait c'est le seul qui a joué cette année. Il a bien fait parce qu'il a explosé cette année. Il était clairement pas dans les discussions du podium avant la saison. Est-ce que c'est une progression linéaire ou est-ce que c'est juste une année où il a évolué au-dessus de son niveau? C'est un peu la question que certains peuvent se poser. Et c'est un joueur qui, à mon avis, ne correspondra pas à tous les systèmes. C'est-à-dire que je dirais qu'à l'inverse de Slater, lui a plus le luxe de peut-être attendre, être patient et contenir. Et du coup, c'est pas forcément le même style de jeu qui va correspondre. Justement, si on parle style de jeu, donc j'ai dit globalement avec Rashawn Slater, plutôt quelque chose de rapide, quelque chose d'explosif, quelque chose qui bouge vite. Au niveau de Penei Sewell, Tu verrais quel type de système, tu dis il est complet, ça veut dire que il peut s'adapter à tous les systèmes, mais si tu devais choisir une équipe ou un système qui correspondrait parfaitement?
Oui, alors ça serait plutôt une équipe qui se base beaucoup sur le jeu de course, avec un power run game, tu vois, où vraiment les gars sont un contre un, et puis il va faire créer son trou pour le jeu de course, ou alors il va prendre son defensive end en homme à homme. Ça serait plus dans ce style-là de système, par exemple.
C'est dommage pour lui. Il y a certaines équipes qui avaient ce système-là l'année dernière, mais ils ont déjà choisi un offensive tech, du coup. Ils se seraient amusés chez certains, comme les Cleveland Browns, notamment, auxquels je pense.
Oui, par exemple, oui.
Et Christian Dariso, du coup, pour le coup, peut-être l'inverse, du coup, moins ce style de jeu.
Peut-être un système en zone, tu vois, parce que justement, il est très mobile, donc du coup, le système en zone, ou suivant le jeu appelé, il peut se déplacer sur la gauche, il peut prendre son gant un contre un, ou au contraire, se déplacer avec son guard et puis ouvrir une brèche ou faire la protection dans ce sens-là.
Moi, quand je pense à ce genre de technique, je pense un peu aux Colts, Alors, c'est un peu hybride, mais les Colts aiment bien faire des schémas de blocs un peu imaginatifs. Bon, quand t'as des joueurs comme Quentin Nelson et Castonzo, ça aide, mais ils aiment bien être innovants là-dessus et je les verrais bien utiliser ce genre de joueurs.
Ouais, bon, il sera parti avant, hein, mais
oui. Il sera parti avant, on est bien d'accord, mais au niveau des comparaisons, Penei Sewell.
Ben écoute, moi je trouve Tristan Wirfs, on l'a vu cette année, le rookie des Bucks de Tampa Bay, parce que c'est vraiment le même gabarit. Comme je disais, c'est rare qu'il y ait un offensive tackle de 150 kilos qui soit à la fois costaud et à la fois athlétique. Et même si je fais le tour de tous les joueurs qu'il y a en NFL, moi je vois surtout Tristan Wirfs.
Oui, l'autre comparaison qui revenait, j'ai vu sur deux sites différents, dont Daniel Jeremiah, c'était de dire que c'était un peu le Taylor Levan du riche.
Oui, beaucoup en parlait d'ailleurs.
Taylor Levan 2.0, quoi.
Oui. Mais bon, moi vraiment, je pense très sans mourir. Quand je vois Penei Sewell, il me fait beaucoup penser à lui.
Rashawn Slater, j'ai parlé de Jonah Williams. Toi, tu avais un autre joueur à nous proposer.
Oui. Moi, visuellement, il me fait beaucoup penser à Dwayne Brown des Seahawks. Pareil, c'est le type d'offensive tackle qui est pas très grand, qui a pas une envergure de fou, et en même temps qui joue très physique au point d'attaque, tu vois, et avec ses mains, avec son engagement, même avec son moteur. Il me fait beaucoup penser à Dwayne Brown, et c'est pour ça aussi que Rashawn Slater, ok, il manque un peu de taille, donc on se pose des questions, est-ce qu'il va jouer guard, tackle, mais non, moi je pense qu'il peut jouer tackle, de la même façon que Dwayne Brown.
Espérons qu'il passe pas autant de temps à l'infirmerie que Jonah Williams, surtout s'il est pris par les Bengals, parce qu'il commence à en avoir marre. Christian Dariso, si tu devais le comparer, tu nous as choisi un tackle très, très connu actuellement, très en vogue. C'est le tackle des Ravens, Ronnie Stanley.
Ben oui, j'ai choisi le top parce que, comme je te disais, pour moi, Dariso, c'est le top. Alors, il est en dessous de Sewell, évidemment, hein, mais c'est vraiment le top. Et comme Ronnie Stanley, c'est un joueur qui est très, très bon en protection, qui est très fluide, qui en même temps est suffisamment costaud pour le jeu de course. Et pour moi, il va devenir un top tackle. Donc, du coup, ouais, Ronnie Stanley.
Bon, et alors du coup, s'il faut que tu donnes ton podium ?
Ah ben pour moi c'est clair, hein, c'est Sewell, Dariso, Slater.
Eh oui, c'est là où on a une grosse différence, c'est que moi c'est Sewell, Slater, Eckenberg en 3 et Dariso en 4. Donc Liam Eckenberg, si vous voulez en entendre un peu plus parler, j'en parle dans la mock, mais on aura aussi l'occasion de revenir dessus. C'est un tackle très puissant de Notre-Dame qui, lui, est plus fait pour des systèmes de run heavy, contrairement à Dariso. Donc, voilà, c'est un autre profil que je vous donne qui peut être intéressant. Mais on est vraiment sur une classe exceptionnelle et on parle de joueurs qui peuvent être titulaires jour 1.
Oui, exactement.
Là, on est vraiment effrayant. Sur des monstres. Bien, c'est la fin de nos comparaisons. Je profite juste en 30 secondes pour vous rappeler que la draft… C'est à l'oral, vous nous écoutez dans des podcasts maintenant, mais c'est également à l'écrit. Et tous ces joueurs dont on parle, le top du top, vous allez les retrouver à partir, je crois que c'est du 22 mars. Durant 40 jours, on a 80 fiches qui vous attendent avec les meilleurs joueurs. Donc, on va vous décrire leurs points forts, leurs points faibles, les équipes qui pourraient correspondre. Donc, surtout… On est très heureux que vous nous écoutiez, mais ne vous inquiétez pas, à l'écrit, on ne vous oublie pas, il y aura plus de couverture que jamais. Eh bien, on va passer à notre deuxième partie, on va parler draft, les Giants et 49ers. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Donc, les Giants et les 49ers. On va d'abord s'intéresser à la NFC Est, division tout aussi compétitive qu'elle est non spectaculaire, qu'elle était non spectaculaire l'année dernière. Les Giants semblent se diriger vers une stratégie qui consiste à garder Daniel Jones et à lui donner, entre guillemets, une dernière chance cette année. Donc, la logique au premier tour serait de se dire la défense a très bien marché l'année dernière, mieux qu'attendu, l'attaque a peiné. Est-ce que pour toi, la priorité avec le choix numéro 11, on le rappelle au premier tour et même ensuite, c'est l'attaque ?
Oui, bien entendu. Et quand tu dis l'attaque, c'est avant tout un receveur. Après, il faut voir qu'ils ont le choix numéro 11. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut oublier Jamar Chase, on peut oublier Devonta Smith. Et possiblement, il y aura Jalen Waddle, mais c'est pas sûr. Il peut avoir aussi un tight end, qui est plutôt un receveur dans un corps de tight end, qui est Kyle Pitts. Après, il faut quand même aussi considérer qui est le general manager, c'est-à-dire Gabe Gettleman. On a vu ce qu'il a fait aux Panthers, on a vu ce qu'il a fait depuis qu'il est aux Giants, et c'est plutôt quelqu'un qui priorise les lignes. Alors l'année dernière, il a pris un tackle offensif, Andrew Thomas. Je pense pas qu'il va le refaire cette année, même si c'est toujours possible. Mais peut-être aller en défense, tu vois. C'est pour ça que si Jalen Waddle est disponible, ça pourrait être un bon choix. Ça pourrait être le choix de Gettleman, mais également un défenseur. Moi, je pensais par exemple à Kuti Paye, parce que les Giants ont un gros besoin pour mettre la pression sur le quarterback adverse. Et Kuti Paye, en plus, ce qu'il a de très bien, c'est que à la fois il est fluide pour attaquer le quarterback adverse en tournant le coin, mais en même temps, il est du mode costaud, tu vois. Et ça plaît à Gettleman. Il aime bien les défensives costauds. Et ça, voilà, c'est Kuti Paye. Donc
plutôt en linebacker extérieur, finalement.
Oui, exactement. Oui. De toute façon, c'est ce qui leur manque. Hein. La ligne défensive est performante, même s'ils ont deux free agents, on pourra en reparler, mais c'est surtout sur l'extérieur, oui.
Moi, je suis d'accord. Wide receiver et edge, c'est aujourd'hui les deux priorités qui semblent fortes. Je dirais que wide receiver, moi, je mettrais Kyle Pitts dedans. Et s'il y a Pitts ou Waddle, moi, je prendrais Pitts. Même si les deux se justifient, hein, Waddle est vraiment une fusée. Là où Pitts est peut-être un peu plus diversifié, mais il faut des cibles pour Daniel Jones. Il ne peut pas repasser une saison avec des Slayton et compagnie. Enfin, il y a un moment, il lui faut des gens. Evan Engram, à mon avis, l'expérience est finie, peu ou prou. Donc, Kyle Pitts me plairait bien. Je rajouterais peut-être un dernier choix possible. Si jamais, parce que les équipes du top 10 ont eu d'autres priorités, un des deux cornerbacks les plus attendus, c'est-à-dire Patrick Surtain ou Caleb Farley, est disponible, on pourrait imaginer qu'ils choisissent cornerback en se disant, si on a Bradbury d'un côté et Farley ou Surtain de l'autre, là, on a un duo théoriquement parmi les plus redoutables de la ligue. Donc voilà, ça peut être une direction peut-être un peu plus surprise, mais pas forcément inenvisageable.
Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Puisque de toute façon, si on enchaîne sur notre deuxième tour, tu vois, moi, ma priorité, c'était Greg Newsom, par exemple. C'est un cornerback qui joue à Northwestern. Parce que justement, comme tu dis, il y a un besoin au poste de cornerback. Ils ont Bradbury qui a fait une saison excellente. Ils ont également un corner dans le slot qui a été très bon pour sa saison rookie, c'est Darnell Holmes. Mais il leur faut un cornerback numéro 2, forcément, puisque celui-là est très ciblé dans les matchs. On veut éviter Bradbury. Donc, comme tu dis, ça pourrait être Farley ou Surtain au premier tour, ou ça pourrait être un cornerback au second tour.
Oui, tout à fait. Moi, tu vois, Edge, je voyais plus au second tour parce que je me dis que il n'y a pas de beaucoup de profils très attirants pour le premier tour, vraiment de profils qui explosent. Mais il y a pas mal de profils intrigants début de second tour. Et c'est vrai que tu avais noté Jaden Phillips de Miami. J'avais pensé à Jordan Smith de UAB aussi. Alors, c'est un pari parce qu'il est beaucoup plus brut. C'est le genre de joueurs qui peuvent être intéressants. Je sais qu'il y a Joe Tryon de Washington qu'on voit beaucoup aussi ressortir. Moi, je suis un peu moins fan, mais c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut défendre la passe. Alors, c'est peut-être pas ni le plus puissant, ni le plus technique, mais il y a des gens qui aiment beaucoup ce profil.
Ouais, ou Quincy Roche de Miami aussi, qui est grand, qui est costaud, qui est polyvalent.
Tout à fait. Et ben, moi, je vais te dire au troisième tour. Quand bien même t'es pris un receveur au premier ou au second, moi je profiterai du fait que la draft est extrêmement profonde au niveau des receveurs pour en prendre un deuxième. Ça me choquerait pas du tout de prendre deux receveurs dans les trois premiers tours. Il y a un moment, il faut donner des armes. Il faut donner des armes. Il y en a marre. Le Daniel Jones, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, avec les armes qu'il avait, il y en a pas beaucoup qui auraient réussi. Et je pense qu'au troisième tour, il va y avoir beaucoup de profils très intéressants. Il y en a qui vont tomber. Il y en a qu'on voit, on voit tellement de receveurs au deuxième tour qu'il y en a forcément qui vont tomber. S'il y a des Elijah Moore, des Tylan Wallace, des Diami Brown, des choses comme ça, ils devraient se précipiter dessus. Toi, t'as choisi un profil un peu plus, peut-être un.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Un peu moins explosif, un peu moins beau dans les highlights, mais qui a un profil très constant, c'est Sage Surratt.
Oui, parce qu'il est grand, il est costaud, il a de bonnes mains, ça va être un bon receveur de possession. Est-ce qu'il va se développer comme un receveur numéro 1? C'est possible, mais au pire, il peut être un très bon receveur numéro 2. Et ce genre de joueur très fiable, tu vois, sur qui tu peux compter, qui va faire bouger les chaînes. Oui, après les noms que tu as cités, moi je suis tout à fait d'accord aussi. J'aime beaucoup Tylan Wallace, donc Oklahoma State. Un autre profil aussi, tu disais Diami Brand de North Carolina, qui est lui plus dans le mode rapide. Mais oui, moi je pense que c'est fort possible qu'ils doublent, qu'ils en prennent un au premier, un au troisième, ou un au deuxième, un au quatrième. Mais comme tu dis, il faut absolument des cibles pour Daniel Jones.
J'aime beaucoup Sage Surratt, qui est un joueur qui au départ avait commit à Harvard, qui avait été pris à Harvard et qui finalement a changé d'avis. Je crois que c'est Fitzpatrick qui vient d'Harvard.
Oui, c'est ça.
Pas de bêtises. Ouais. Donc, il aurait pu suivre les traces de Fitzpatrick, mais il a décidé de se concentrer sur le foot. Mais du coup, on peut espérer que ce soit un joueur bien dans sa tête et assez intelligent. Au troisième tour, un dernier profil que personnellement, je suis un peu plus mitigé, mais c'est Clemson. Alors, c'est bling bling, ça peut plaire à New York. C'est Amari Rodgers.
Ah non, très bien. Non, tu rigoles. Très, très bien, ce joueur. C'est vrai qu'il manque de taille. C'est vrai qu'il a souvent joué dans le slot, etc. Mais il est très, très fiable. Il produit depuis plusieurs années. Il fait de très bons tracés. Non, ce serait un très bon joueur. Moi, je trouve, même au troisième tour, ce serait même pas un reach, Amari Rodgers.
Non, c'est sûr. C'est pas un... Il va pas faire gros jeu sur gros jeu. Mais par contre, c'est celui qui peut te faire 5 réceptions pour 50 yards et 3 first downs à chaque match.
Ouais,
et
ouais,
ça peut être. C'est un très bon coureur de tracé. Et Joe Judge pourrait l'utiliser. Bon, je pense que pour les Giants, on est plutôt pas mal sur ces 3 premiers tours. Si on s'intéresse aux 49ers.
Ah, allez.
Alors, les 49ers, première question, c'est Jimmy Garoppolo, or not Jimmy Garoppolo.
Bah,
est-ce
moi, je pense
que. Toi, si par exemple, Trey Lance et Mac Jones sont disponibles, est-ce que tu choisis un de ces deux-là ou est-ce que tu te dis c'est pas tellement un upgrade et je préfère renforcer autre chose?
Non, c'est fort possible, moi je trouve, et surtout pour Mac Jones, parce que je trouve qu'il a vraiment le profil pour aller avec Kyle Shanahan, c'est-à-dire ce type de quarterback qui est très très fiable, qui va être... Alors, game manager, ça sonne très restrictif. On dirait presque que c'est un défaut. Mais en fait, non, c'est une qualité d'être un game manager.
Tom Brady est game manager et il a 7 bagues.
Exactement. Tu vois, vraiment, le gars, il fait très peu d'erreurs. Il a plutôt de bonnes lectures. Mais par contre, tu vois, vu que tu parlais de Jimmy Garoppolo, même si tu prends Mac Jones, qui a l'air plutôt près de ce qu'on a vu à Alabama, mais quand même, tu gardes Jimmy Garoppolo pour 2021. Le temps de mettre Mac Jones derrière, qu'il apprenne le playbook et puis qu'il s'ajuste aussi au niveau NFL, puisque même s'il vient d'Alabama, qu'il jouait en SEC contre de belles défenses, c'est la NFL, ça n'a rien à voir, c'est 2 étages au-dessus, donc ça va plus vite, les défenses masquent leur schéma, donc il aura besoin d'apprendre. Et il me semble là que Garoppolo, il reste en quoi 2 grosses années de contrat, donc du coup, ça serait très bien de l'avoir en remplaçant cette année, Mac Jones, et puis titulaire pour 2022, pourquoi pas.
Je crois qu'il a 2 années, mais je pense que tu peux le cutter sans beaucoup d'aide.
Oui, c'est un truc comme ça, oui.
Son contrat était plutôt bien construit. Je suis d'accord que Mac Jones correspondrait plus que Trey Lance. Ce qu'il leur faut, c'est un game manager. Et encore une fois, game manager, c'est pas une insulte, hein. Je veux dire, je disais Tom Brady, mais on pourrait parler de Matt Ryan, qui était avec Shanahan avant.
Ouais.
C'est un game manager aussi. Enfin, c'est un style de jeu qui, au contraire, est plutôt très valorisant. Moi, j'y crois pas, Mac Jones. Je trouve pas que ça soit particulièrement un upgrade par rapport à Garoppolo. Ok, Garoppolo a foiré sa saison, mais enfin, globalement, il a prouvé il y a 2 ans qu'il était suffisant pour aller au Super Bowl. Moi, j'ai envie de renforcer cette défense. Je sais que tu avais, je crois que c'est le choix que tu as fait à la mock, Jesse Horn.
C'est ça.
Oui, c'est un joueur, c'est un cornerback. Vraiment, c'est numéro 3, voire même il pourrait finir numéro 2 chez certains. Il est à South Carolina. C'est un joueur extrêmement intelligent. Et c'est un joueur qui aime bien les défenses de zone. Et si je ne dis pas de bêtises, ça joue quasi exclusivement la zone en CB2 aux 49ers. Donc, pour le coup, je pense qu'il serait bien dans cette équipe. Vraiment, le profil est intéressant.
Ils ont des besoins, tu vois, avec Sherman qui est free agent, qui est un peu âgé, avec Verrett qui est free agent, et puis il y a toujours ces problèmes de blessures avec ce joueur. Il leur faut absolument un corner. Donc, ça sera promis au deuxième tour, un corner pour moi. Hein.
C'est ça. Et une autre option, si jamais ils n'ont pas ce qui leur plaît, même si certains vont trouver que c'est rich, c'est prendre un lineman intérieur. On sait à quel point la ligne est essentielle dans les schémas de Shanahan. Et la ligne intérieure tire un peu la langue. Donc, pourquoi pas un Wyatt Davis s'ils sont amoureux.
Oui.
Ça peut, même si certains vont trouver ça haut. Après tout, Nelson avait été pris quoi, 6e en tant que joueur, ils l'ont pas regretté. Donc là en 12, je serais pas choqué particulièrement qu'il se dirige vers un Wyatt Davis ou vers un Elijah Vera Tucker qui est assez polyvalent guard tackle et qui pourrait dépanner aux deux postes puisque Trent Williams est free agent si je dis pas de bêtises.
Ouais ouais.
Donc un Elijah Vera Tucker qui peut jouer guard ou tackle, ça peut aider.
Oui, ça serait un bon choix, moi, je trouve. Et tu vois, vu qu'on parle de l'intérieur de la ligne, il faudra également un choix un peu plus tard, puisqu'ils ont plus leur centre, là, c'est Kilgore, et il leur faudra un nouveau centre. Genre, au 4e tour, tu pourras trouver un centre.
Au 4e tour, tu pourras trouver un centre. Alors, oui, vas-y, parce que normalement, on fait les 3 premiers tours, mais donne-nous un petit nom auquel tu penses.
Ah, ben, par exemple, Drake Jackson de Kentucky, ou alors peut-être la pépite, dont on va parler tout à l'heure.
Ah oui, mais justement, ouais, ça, tu fais bien de dire, j'allais dire son nom. Mais c'est vrai que c'est ta pépite de tout à l'heure. On va vous parler d'un joueur spoiler de 3e division. Vous avez bien entendu, 3e division. Si on continue un peu au 2e tour, donc toi, tu pensais à l'intérieur de Adine. Tu avais mis Trey Smith, je crois, un joueur extrêmement talentueux. Bon, qui certains ont un peu de crainte parce qu'il a eu des graves problèmes de caillots sanguins, etc., ce qui lui ont fait louper une saison. Si par exemple il n'y a pas eu de cornerback au premier tour, toi au deuxième tour tu voyais bien un gros bonhomme, un gros monsieur, Ifeatu Melifonwu de Syracuse, toi tu le vois cornerback?
Oui, je le vois cornerback. Oui, c'est vrai qu'il a des mensurations un petit peu safety, tu vois, parce que il est très grand, il est très costaud. Mais en même temps, il est très athlétique. Et puis, de toute façon, il jouait cornerback. Ça se passait plutôt bien. Alors certes, évidemment, c'est pas la même chose de le faire à Syracuse qu'en NFL. Mais je pense qu'il a les capacités pour rester sur l'extérieur. Et ça serait un bel ajout. Et puis, alors ok, ça fait un petit peu cliché, mais dans la division, ils ont DK Metcalf. Donc, pourquoi pas mettre quelqu'un qui est à la fois grand, qui est à la fois costaud, qui a de la vitesse, puisque bon, Melifonwu, c'est un méga athlète, comme l'était son grand frère. Hein. Il faisait de l'athlétisme, etc. Donc, et tu aurais un prototype pour tenter de marquer DK Metcalf.
Eh bien, moi, sur les cornerbacks, je vais un peu faire de la nostalgie pour les fans des Patriots et des Eagles. Parce que je vais vous parler de Asante Samuel Junior, évidemment, Florida State. Donc, c'est un joueur qui est petit. Certains pensent trop petit pour jouer à l'extérieur. Je trouve que cette année, il a prouvé qu'il pouvait le faire. C'est un joueur propre, c'est un playmaker. Moi, j'adore ce genre de joueur. Il va créer les grosses actions, il va créer les interceptions. Alors parfois, c'est vrai que son physique, s'il joue contre un gros receveur, on va lui lancer des 50-50 et il va souffrir, ça c'est sûr. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc à voir comment il peut être utilisé. Mais quand on a des coachs intelligents, je pense que quel que soit le physique, on peut tirer le meilleur joueur. Même si bon, la défense des 49ers, je ne sais plus qui va succéder à Robert Saleh en coordinateur défensif. Ah, c'est Demeco Ryans, non? C'est pas ça l'histoire?
Peut-être.
Je sais plus, il faudrait que je vérifie, mais bon, on verra quel système ils utilisent. Et au troisième tour?
Au troisième tour, écoute, moi, il y a un joueur qui me paraît mais vraiment parfait pour jouer avec Kyle Shanahan à San Francisco. Alors, c'est pas forcément un besoin, mais quand tu vois ce joueur, tu penses Shanahan. C'est Demetric Felton, un petit gars du CLA, qui en fait a commencé sa carrière universitaire en tant que receveur, et puis il est passé running back pour les besoins de l'équipe. Il a été très bon comme running back. En plus, c'était un running back qui, évidemment, avait des compétences dans le jeu de passe. Et puis là, on l'a vu au Senior Bowl être aligné exclusivement comme receveur. Et c'est un joueur qui a des cuts explosifs, qui fait des très, très, très bons tracés. Et vraiment, tu vois, si tu l'ajoutes à Deebo Samuel et Brandon Ayuk, ça pourrait être vraiment merveilleux dans ce système que fait Shanahan avec des joueurs qui partent un peu dans tous les sens, beaucoup de feintes. Demetric Felton, moi, je serais vraiment pas surpris qu'il le sélectionne.
Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un joueur explosif. C'est un joueur intrigant. Et je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui va tomber amoureux de ce joueur. Ça, c'est sûr. Moi, j'avais... Alors, ce sera peut-être pas au troisième tour. Ce sera peut-être un peu plus bas. Mais je me disais que, bon, je n'oublie pas qu'il y a Monsieur Kittle, mais que s'ils veulent jouer en 12 personnels pour un peu étonner les autres équipes, et notamment, comme on sait qu'ils jouent beaucoup en course, bah, perdre un peu les défenses avec des alignements, j'aimais bien notre cher ami Kenny Yeboah de Ole Miss, qui est beaucoup plus léger. Hein, pour le coup, c'est pas le même corps que George Kittle. Mais du coup, ce genre de tight end F, donc qui peut jouer un peu receveur, un peu bloqueur, et qui serait une belle arme dans la red zone, parce que le problème aussi de cette équipe, c'est qu'ils ont beaucoup de petits joueurs très explosifs. Mais alors, quand ils sont à 5-10 yards de la red zone, et qu'il faut trouver des joueurs qui font la différence dans la red zone, parfois, ils ont un peu plus de mal. Voilà, j'aimerais bien trouver des... d'une manière ou d'une autre, des menaces un peu nouvelles sur les situations de premier égo, deuxième égo, etc.
Ouais, ouais, c'est bien vu. Ouais.
Donc, c'est un des points qui est à surveiller. Bon, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. On va pouvoir tout de suite aller voir nos pépites. Je vous ai spoil, je vous ai dit, troisième division, on y va tout de suite.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Vous connaissez l'université de Wisconsin en première division, mais connaissez-vous l'université de Wisconsin Whitewater en troisième division? Je ne pense pas, sauf si vous avez suivi le Senior Bowl. Parce qu'il se trouve que ce qui est un peu marqué cette année au Senior Bowl, c'est que la star était un lineman offensif. Déjà, c'est pas tous les jours. Et un lineman offensif troisième division, c'est Quinn Meinerz, 1m91 pour 145 kilos. Je te laisse m'en parler, Jean-Michel. Qu'est-ce qui t'a plu chez ce joueur?
Bon, évidemment, c'est au Senior Bowl que je l'ai découvert, hein, puisque Wisconsin Whitewater, j'avais pas trop suivi leur match, hein, on va l'avouer. Qu'est-ce qui m'a plu? Ben, beaucoup de choses, en fait, ce gars-là. Alors, déjà, tu l'as remarqué, on l'a tous remarqué, puisqu'il jouait avec le maillot relevé, donc il avait une belle bedaine, et puis, ça fait un peu le buzz sur Internet. Mais évidemment, s'il pourrait être choisi, moi je pense, en fin de troisième tour, c'est parce que c'est un très bon joueur. C'est-à-dire qu'il est très mobile, que ce soit sur la ligne d'engagement, mais également pour les décrochements. Depuis qu'il a fait ce buzz au Senior Bowl, vous retrouvez maintenant sur YouTube plein de vidéos de lui avec son université. Mais vous le voyez de partout sur le terrain, aller aplatir un linebacker, un safety avec son coureur qui est derrière lui. C'est un joueur qui utilise très bien ses mains. Il est très agressif, très physique. C'est un joueur qui a des appuis très bas. Hein, on dit toujours « low man wins », c'est-à-dire ceux qui jouent bas sur leurs appuis remportent le duel. Ben ça, il sait déjà le faire. Et puis, évidemment, vu qu'il vient de troisième division, ben, il a une marge de progression très, très importante. Et ça peut séduire une franchise.
Ouais, je suis totalement d'accord. Ça m'a marqué aussi à quel point il jouait bas. De temps en temps, tu regardes jouer, tu te dis « mais en jouant aussi bas, il va tomber, là, il va basculer un moment ». Et non, il est bien sur ses pieds. Il est bien sur ses pieds. Il bougera pas. Et c'était incroyable de voir des joueurs de première division venir se fracasser les uns contre les autres contre lui. Alors que, voilà, c'était censé être, entre guillemets, la petite invitation sympa, le clin d'œil en mode, si vous êtes en troisième division, vous aussi, vous pouvez un jour atteindre le Senior Bowl. Bah ouais, bah, non seulement il l'a atteint, mais il a très certainement gagné une belle place à la draft. Et, c'est un joueur qui va être très intéressant à suivre et, nul doute que les médias vont le suivre encore et toujours jusqu'à la draft.
Oui, et d'ailleurs, si vous voulez rigoler un petit peu, vous allez sur YouTube, vous tapez Canada Workout et vous allez tomber sur sa chaîne, je crois que c'est Q Meinerz, et vous allez le voir s'entraîner en pleine nature. Et c'est très frais.
Ah oui, il soulève des troncs d'arbres et tout.
Il soulève des troncs d'arbres, il coupe du bois comme Charles Ingalls, il court dans la nature, il fait des pompes, il fait des squats avec des grosses bouteilles d'eau. Enfin, c'est vraiment très frais, c'est très sympa à voir.
Oui, ça a l'air d'être un marrant. Et puis avoir une bedaine, ça n'empêche pas de réussir en NFL. Hein. Regarde, même les running backs, même Ezekiel Elliott, il a signé 80 millions malgré sa bedaine. Tout le monde peut réussir. Moi, je vais vous parler de Thomas Graham Jr., donc un cornerback de Oregon. Donc, il a opt-out en 2020, si je ne dis pas de bêtises, 1m80 pour 88 kilos. C'est un joueur, c'est typiquement le joueur, alors le plafond est bas, mais alors le plancher, je pense, est haut. C'est un joueur polyvalent. Il peut, notamment en couverture de passe, il est bon, mais il peut à peu près tout faire. Mais c'est un joueur qui est limité physiquement, limité athlétiquement. Et c'est typiquement le joueur correct partout, mais excellent nulle part. Et alors, ce type de joueur, t'en veux pas au premier tour. Enfin, pas souvent. Mais par contre, au quatrième, au cinquième tour, c'est le genre de profil que moi, je trouve intéressant. Pour une défense qui se dit, tiens, j'ai besoin juste d'un renfort, du mec qui va jouer dans le slot, qui peut éventuellement dépanner à l'extérieur si un tel se blesse ou quoi. Eh ben, ce genre de joueur comme Thomas Graham, c'est pour moi les joueurs qu'il faut cibler. C'est les bonnes affaires. C'est-à-dire que il mérite pas d'être au troisième tour, il mérite pas d'être non drafté. Il mérite d'être par là, vers le cinquième tour. C'est là où il sera pris. Et je pense que l'équipe qui va le prendre sera très heureuse d'avoir un joueur constant, plutôt concentré, même si parfois on l'a vu avoir des petites sautes de concentration. Enfin, ça peut arriver, ça se coach. Donc voilà, c'est le joueur, il va pas vous éblouir, mais je pense qu'il sera très utile dans tous les cas.
Oui, de toute façon, tu as bien vu, toutes les équipes, elles jouent la plupart du temps avec 4 defensive backs, des fois 5, des fois 6. Donc il faut du monde et tu peux pas avoir que des premiers tours. Donc forcément, tu vas avoir des joueurs de complément comme ça qui seront sur un troisième dame, qui seront si un joueur s'est blessé, qui seront. Tu en as besoin dans un 53.
Oui, et puis c'est vrai que la position de slot cornerback, à une époque, on n'en parlait pas autant qu'on en parle aujourd'hui. Mais c'est parce que le nombre d'équipes qui vont aligner, bon, on va prendre une 4-3, mais 4 joueurs de ligne, 2 linebackers, et qui derrière vont mettre du monde derrière, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a de plus en plus, donc il y a de moins en moins d'alignements à 3 linebackers, en tout cas sur des 4-3, qui finalement sont presque des 4-2 aujourd'hui. Et le slot cornerback est devenu extrêmement important. En plus, comme souvent, c'est un joueur qui navigue dans la zone. Il a quand même plus de chances de réussir des interceptions que des cornerbacks purs. Et forcément, c'est des joueurs qu'on remarque du coup. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Avant de vous quitter, je vais vous rappeler le programme parce qu'il est quand même XXL. C'est-à-dire que jusqu'à la draft, à l'audio, vous allez avoir le débrief par poste, comme vous l'avez eu l'année dernière, les meilleurs quarterbacks, les meilleurs running backs, les meilleurs receveurs. On va faire tous les postes un par un. Vous allez avoir également des pastilles. Alain vous l'a annoncé et Grégory vous l'a annoncé aussi. Des pastilles pendant 32 jours avant un draft. Tous les matins, une équipe sera débriefée. Ça va être le même format que vous aviez eu pour les previews avant cette année. Et à l'écrit, je l'ai dit, hein, vous allez avoir les fiches draft, vous allez avoir des top 100. Il y aura également des lives d'organiser, donc restez à l'écoute de nos réseaux sociaux. Et on va vous accompagner jusqu'à la draft, comme jamais encore cela n'avait été fait sur Touchdown Actu. Et on va pas s'arrêter là, on va continuer à vous proposer toujours plus de contenu. En vous remerciant pour votre fidélité, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux. Jean-Michel, je me trompe toujours sur les nombres, c'est Zappa 13
009.
009, et pour ma part, c'est @VictorRoulier. Et n'hésitez pas à suivre Touchdown Actu si vous ne le faites pas déjà. Merci à tous, bonne journée et rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Et bon week-end.
Jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en vodka.